C'est un tableau. On a beaucoup parlé la dernière fois du nommé. N'HO2ME R. Parce que ça peut nous servir. Ça peut nous servir de métaphore pour essayer de parler de ce qui se passe justement de ce qui ne se passe pas, justement. Enfin, de ce qui est en jeu, dès lors que l'être parlant que nous sommes se met à parler. Ce que je vous disais la dernière fois, c'était l'importance de bien sûr, de prendre en compte la dimension du sens, c'est-à-dire qu'on est obligé de passer par là. Et avec Lacan, lecteur de Freud, on est dans l'idée qu'il y a, dès qu'il s'agit d'être parlant, ça veut dire quoi ? Entre autres. Ça veut dire qu'il y a, et là, vous voyez, on n'est plus dans le sens, il y a, dès que je parle, dès que l'être parlant parle, en fait, la parole se place dans trois dimensions. Daniel, tu veux venir t'occuper du truc, parce que je voudrais parler du cri. Dans trois dimensions, tu me vois que... Bon. C'est-à-dire que si vous regardez le tableau, là, évidemment vous êtes exactement, je crois qu'on peut dire ça, dans la même position que quand vous parlez habituellement. C'est-à-dire que vous croyez à ce que vous voyez. Et vous voyez ce que vous croyez. Et d'emblée dire les choses comme ça, c'est dire qu'on est dans une prison. Voilà. C'est-à-dire que là, effectivement, on va décrire ce qui est en jeu. Et ce qui est en jeu, ça va être ce que je vous ai lu la dernière fois. Par exemple, la façon dont Munch lui-même va expliquer son tableau. Hein ? Vous allez décrire différentes possibilités, différentes lignes, différents plans, différents niveaux. De toute façon, dans cette position-là, qui est la position habituelle du plan, qui est la position habituelle de la pensée, on est prisonnier parce que défini est limité. Et à la limite, on pourrait dire qu'on sait ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'on emploie des mots qui ont un sens, celui du dictionnaire, on s'applique à respecter les règles de l'orthographe, de la concordance des temps, et eh bien, on a tous été formés comme ça, et à partir de là, on peut se comprendre, ou à peu près. Donc je peux décrire, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, toutes sortes de choses. Bon, j'insiste bien sur le fait que tout ça, c'est lié à la mise à plat, qui est le plan. On pense à partir du plat, hein, le plat pays là, de Chambrel. C'est tout à fait ça. Même si on imagine qu'il peut y avoir des montagnes, etc., des petites bosses, comme on veut, on ne peut penser qu'à partir du plan. Alors, on va penser plus ou moins compliqué, bien sûr. Mais on pense comme ça. Et quand on veut essayer de penser quelque chose qui se déploie dans l'espace, on va en faire un dessin qui est sur un plan. Dès qu'on parle, dès que je parle, dès que vous parlez, ceci fonctionne comme ça. Au point qu'on peut penser à ce moment-là, effectivement, qu'on va trouver la cause de ce que l'on est en train de dire, parce que on veut toujours savoir pourquoi on a dit ça, pourquoi, ça commence très tôt, hein, les enfants, hein, pourquoi, hein, tu ne répondais pas ce que, pourquoi, bon. Alors, dès qu'il y a cette dimension-là, donc, du fait qu'on parle, eh bien, est complètement oublié qu'il y a quelque chose qui n'est pas lié au voir, à l'évidence. Évidence, ça vient de videre, latin qui veut dire voir. Et que le blablabla qui est fourni par ça, c'est pas péjoratif ce que je dis, en des termes de Lacan, enfin une façon d'en parler, c'est pour montrer que c'est du blablabla, effectivement, il faut aller par le blablabla, premièrement, c'est évident. Le blabla, en fait, il est évidé. Il faut arriver à ce que le sens, ce que l'on voit là, soit vidé. Et vide ne vient pas de videre. Vide, c'est pas voir. Vide, étymologiquement, ça correspond au fait qu'il y a un trou, qu'il y a un manque. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le symbolique, le blabla, comporte en lui-même un trou, un manque, un endroit où s'arrête tout le blablabla. Et Freud a découvert ça très tôt dans les associations du rêve, et il a appelé ce trou l'unerkannt, l'unerkannt, le non reconnu. C'est-à-dire qu'il y a un impossible à connaître. C'est pas le non reconnaissable. Il y aura encore possibilité, hein. Hein, le suffixe « a », ça veut dire qu'il y a la possibilité, hein. Non. Le non reconnu, boum, c'est comme ça, ça tombe comme ça. Participation. Bon. Eh bien, on pourrait penser qu'à ce moment-là, ce qui nous embêterait beaucoup, c'est qu'on est privé de quelque chose. Puisqu'on attendrait quelque chose, on attendrait à savoir quelque chose, et puis on se bute, on vient buter la tête contre un mur, qui est ce mur qui nous rendrait dans l'impossibilité de savoir. Tout ça, tout ce que je vous dis, ça fait partie de tout ce qui n'est pas le discours analytique. Je dis discours analytique avec Lacan, je ne parle pas de la psychanalyse. Parce que la psychanalyse peut tout à fait être définie comme de la psychologie des profondeurs. Ça, c'est ça. On trouve tout ça dans Freud. Ça ne veut pas dire que pour Freud, c'était ça. Bon. Alors, il va apparaître, à la fin du 19e, au début du 20e, un discours nouveau. C'est le discours analytique. Qui tout ce que je suis en train de dire va, de tout ce que je viens de dire, va opérer un renversement. Et pour rendre compte de ça, Lacan va prendre ce qu'il appelle une figure topologique, qui est la bande de Möbius, qui est quelque chose de cet ordre, là, et la bande là, comme ça. Hein? Si vous prenez ça, ça signifie qu'il y a, et que ça tourne comme ça, c'est un rond, vous avez un extérieur et un intérieur. Eh bien, s'il y a une petite torsion, vous allez vous rendre compte que l'intérieur devient l'extérieur, l'extérieur devient l'intérieur, sans du tout qu'il y ait rupture. Et simplement ce mouvement-là, ça indique que on ne peut pas rester dans l'opposition intérieur-extérieur. Oui, non, on ne peut pas rester dans le binaire. Il y a autre chose. Il y a autre chose que l'espace où la pensée peut se déployer. Parce que la pensée, elle ne peut pas, on va le penser, mais elle ne peut pas arriver à penser ça comme ça. Alors, elle va le représenter sur le plan avec des pointillés pour montrer ce qui est d'un côté, ce qui est de l'autre. Hein. Vous connaissez ça, mais néanmoins, c'est quand on vraiment fait le mouvement qu'on se rend compte du mouvement de torsion. Donc, on ne peut pas dire, ça c'est à l'extérieur, ça c'est à l'intérieur, donc il n'y a plus de prison. Voilà, il n'y a plus de prison. Et le ressort du langage, là d'où nous venons comme sujet, c'est de nous offrir ça, qui va être, bien sûr, récusé par la pensée qui va se développer. Et on va en rester avec notre pensée habituellement. La pensée, la mémoire, la volonté, enfin toutes les facultés qu'on a apprises, hein, qu'on peut avoir, qui donnent justement cette dimension de l'intelligence. Hein. Bon, alors, si je parle, je, première personne, parle, troisième personne. Et si je dis « si je parle », je ne sais pas ce que je dis. Je peux dire « je parle », première personne du verbe « parler », mais aussi troisième personne. Alors, si le « je parle », ça correspond au fait qu'on est dans un autre espace que cet espace-là. Ça, c'est l'espace cartésien bien connu, notamment depuis Descartes, mais bien avant déjà, hein, qui présente certaines caractéristiques que l'on connaît, à savoir que cet espace, il est articulé autour d'un centre, et que ce qui fonctionne essentiellement dans l'espace, dans le plan, c'est le cercle. Et qu'est-ce que c'est qu'un cercle ? C'est quelque chose qui a un contour qui se fait par rapport à un centre. Alors si ce contour n'est pas, si les diamètres, si le rayon, comme on dit, du cercle n'est pas tout à fait égal, ça pourra faire autre chose qu'un cercle, tout à fait, on va dire, harmonieux, mais la forme, puisque dans tout ça, ce qui est en jeu, c'est la question d'une forme. Et ce qui est la forme la plus, on va dire, primaire, était connue chez les Grecs, c'est la kalokagathos. Kalos, kai, kagathos. La belle, kai, est agathos, bonne forme. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein, si vous regardez dans les sculptures des Grecs, vous allez trouver ça au niveau des sculptures. Je ne vais pas partir là-dessus parce que je voudrais revenir, j'arrive à faire la jonction par rapport au discours analytique et par rapport à ce qu'il en est du corps. Bon. Donc, on est automatiquement aliéné là-dedans. Et ça se développe, ça, inévitablement, pour chacun d'entre nous, pour chaque être parlant, ça s'est développé du fait que... Alors, pourquoi ça s'est développé? Du fait que nous arrivons dans ce monde qui, plus particulièrement peut-être maintenant, mais toujours, va complètement à volo. Hein, nous sommes arrivés dans ce monde-là, pas fini. On n'est pas fini. L'animal, il a à peu près fini. Nous, on n'est pas fini. C'est-à-dire que il n'y a pas une forme, une belle forme, une bonne forme, qui va nous permettre de nous couler à l'intérieur. Et ceci va se mettre en route progressivement. Alors, ceci, ça fonctionne dans... C'est pas du visuel. Hein, c'est ça. Ça va correspondre au sein du miroir. Mais c'est pas du visuel, le sein du miroir. Même si on dit le miroir, même si on voit son image, l'image en question, c'est une image inconsciente qui n'est pas du tout liée au fait du reflet en optique. Bon. Alors, je reviens là-dessus. On va donc développer cette forme pour autant qu'on a ce pressentiment d'une bonne forme, et ça, on le pressent comment ? On ne le pense pas. On le pressent à partir de ce que l'on entend qui nous vient de ceux qui s'adressent à nous, notamment nos parents, notamment la mère. Il y a quelque chose dans son discours qui est mis en ordre, évidemment, par cet ordre. Sinon, elle ne s'y retrouverait pas. Donc il y a quelque chose de l'ordre. La dimension de l'ordre, c'est quelque chose qui, pour l'enfant, survient très très tôt. Il n'y a pas besoin qu'il y ait des règles et des lois. C'est dans le langage que c'est apporté. Bon, donc, cette dimension de l'ordre, la mise en ordre, la description, c'est tout ce qui va tourner autour de ce qu'avec Lacan on appelle l'imaginaire. La figuration, la figure, tout ça. Tout ce qu'on peut voir là. Et donc, ce qu'il y a de... On va dire du phénomène du miroir, c'est tout ce qui va tourner autour de la perception, notamment de la perception visuelle, qui va faire qu'un jour, on a oublié ça, un jour on va se percevoir comme tout à fait uni, tout à fait dans la bonne forme. Et c'est une jubilation. Voilà, ça s'appelle le stade du miroir. Il faut passer par là, sinon il va y avoir des gros problèmes, parce que la pensée, que je suis en train de vous expliquer, mettez à penser A2PENSCE, la pensée s'accroche à ça. Vous voyez, si ça n'a pas lieu sur le plan psychique, vous voyez, tout ce qui va se passer du côté de ce qu'on peut appeler les états limites, voire les psychoses après. Hein? Donc il y a quelque chose là qui est très important, qui doit se mettre. C'est une aliénation, mais c'est une aliénation indispensable. Et à partir de là, c'est ce dans quoi on était jusque-là. Ce qui fait que si vous regardez un nouveau-né ou un très jeune enfant, tout est ouvert, quoi. Il absorbe tout. Il n'y a pas de limite comme ça qui vient de fonctionner. Bien, tout ça, ça va être récusé, je ne dis pas refoulé, récusé. On n'en a plus du tout de souvenir, on n'en a pas de souvenir. Mais la grande question, c'est est-ce que c'est pas de ce côté-là qu'est-ce qu'on pourrait appeler le corps vivant, la vie? Puisque la pensée qui apparaît, qui se développe, qui va se développer, elle va s'arranger pour que toute cette dimension-là, dont j'ai parlé, que j'ai évoquée, soit telle qu'elle n'a jamais eu lieu. Elle n'a jamais eu lieu. On ne se souvient pas de ça. On ne peut pas s'en souvenir, je dirais, radicalement, puisque la mémoire part de la pensée. On n'est toujours pas dans l'inconscient, hein, c'est pas ça l'inconscient. Hein. C'est pour montrer que si on est riche, c'est parce qu'on est divisé entre ces deux mondes-là. À ceci près que le monde qui va s'articuler autour du sens de la pensée, qu'on va appeler le monde d'une certaine jouissance, qu'on appelle la jouissance phallique, liée au sens, va recouvrir complètement cette autre jouissance qui est une façon de prendre en compte qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, un autre espace et un autre temps qui est ce que Lacan a nommé grand A, de l'autre. La jouissance autre ou la jouissance de l'autre. Voilà. On est divisé, déchiré entre les deux. Et habituellement, on n'est pas déchiré du tout parce qu'on n'a aucune idée, parce qu'on ne peut pas en avoir une idée, de cette autre jouissance. Et du coup, on peut parler à partir de là de deux types de corps, d'une certaine manière. Il y a le corps, comme ici, comme ce qu'on peut voir, qui va se développer au niveau de la science, de la médecine, de la psychologie, de la physiologie, tout ça, de l'anatomie, etc. Et qui peut aller dans des champs très élaborés, comme par exemple le noyau nucléaire, enfin le noyau cellulaire, où on va trouver quoi ? Eh bien les chromosomes. Mais tout ça, même si c'est tout petit, s'il faut des appareils très compliqués pour les voir, ça n'a rien à voir avec le premier espace. Le premier espace, il est insaisissable. Voilà. Et c'est cet espace-là, ce savoir-là, qui est plus particulièrement régi parce qu'avec Lacan, que Lacan va nommer le réel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réalité. En fait, ce qu'on appelle la réalité, c'est l'imaginaire. Pas au sens habituel, hein. C'est pas ce qu'on s'imagine, l'imaginaire. Hein. C'est plus élaboré que ça. Alors voilà comment on est parti. On part là-dedans, comme ça, et puis on se débrouille. Il y a des choses qui vont arriver, qui vont faire que... Mais il y a des choses qui sont pas pensables, hein, qui vont être refoulées, etc. Enfin bref, tout ça, ça va conduire à des symptômes, puis on va se débrouiller, puis un bon jour... éventuellement, on va commencer à parler. Alors, ce qui est important, de même que ce tableau-là, je vais revenir encore un petit coup au tableau avant, c'est que ce qui est important dans ce tableau-là, évidemment, c'est le fait qu'il y a, si ça a été nommé le cri, c'est que il est question, effectivement, du cri, mais qu'est-ce que ce cri que l'on ne saurait entendre? Puisque personne, pour le moment, sauf s'il est complètement halluciné, va entendre les voix. Ça suppose de les entendre, les voix, ça suppose de les croire, de croire qu'elles existent. Donc, qu'est-ce que ce cri? Et alors, pensez à la bande de minibus, la chose extraordinaire, c'est que c'est évidemment pas le cri qui est important. On pourrait dire que le cri, c'est ce qui est... Je schématise un peu, mais c'est pour un peu... Je figuratise un peu. Le cri, c'est ce qui a marqué sur l'extérieur. Mais ce qui est important, c'est le mouvement qui va faire que ce qui est à l'intérieur va revenir à l'extérieur, et à l'extérieur, il y a marqué silence. C'est-à-dire que le tableau mélange en place un jeu particulier, un retournement, une articulation du cri et du silence. Mais ce n'est pas le silence au sens où on l'entend habituellement. Ce n'est pas un silence d'où jaillirait un cri. Non, là, si on dit comme ça, on retombe dans cet espace. Il y aurait « je me tais, je parle ». Et je parle, le fait que je parle, ça vient faire disparaître le silence. Non, c'est pas ça. Ça, c'est le penseur qui pense ça. C'est le chercheur qui étudie ça avec des appareils très sophistiqués. Ça a certainement de la valeur, mais c'est pas ça qui nous intéresse. C'est que quand je parle, quand vous parlez, ou quand le je parle, troisième personne, il crée du silence. Et oui, d'emblée apparaît la dimension de la voix, et de ce qu'il y a de particulier dans la voix qui parle, et bien sûr, dans la voix qui va chanter. Je reviens donc à nouveau là, sur le cri, pour dire que dans cette béance, puisque tout est là, hein, évidemment, s'il fait ça, c'est pas du tout parce qu'il se bouche les oreilles, ça c'est une figuration, c'est une représentation à nous. C'est peut-être la représentation de Munch, pourquoi pas. Hein? Mais il ne cherche pas à se boucher les oreilles pour ne pas entendre le cri. Ça, c'est le penseur qui pense ça. Et pourtant, ce n'est pas faux. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. C'est le fait qu'il y a mis en évidence ce trou. C'est-à-dire le fait que dans tout ce tableau, ce qu'il importe, c'est qu'il y a un vide, comme je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est pareil que quand je parle, je fais du blabla, parce que ce blabla, ça me permet de communiquer avec vous, mais que ce qui est important, c'est que il y ait dans ce symbolique, dans ce blabla, il y a quelque chose de l'ordre d'un trou qui fonctionne. Qui fasse, par exemple, que vous n'allez pas pouvoir redire après, si vous le vouliez, si vous le demandez, ce que je viens de dire. Vous allez, vous, à nouveau construire quelque chose. Donc, l'importance du tableau, c'est effectivement l'aberrance, qui, comme par hasard, évidemment, met en jeu le corps, puisque c'est effectivement un orifice du corps. Ça, on retourne sur le plan quand on dit ça. Hein? Mais ce qui est véritablement en jeu, là, si vous voulez, si on voulait penser à la bande de Mébius, on pourrait dire que l'ensemble du tableau se précipite dans le trou. Le mouvement. Alors, où est l'endroit, où est l'envers, on n'en sait plus rien. Mais on n'en a rien à faire de savoir. Et ce qui se précipite dans le trou, bien sûr, c'est quoi? Eh bien, c'est le silence. Il y a de quoi s'y perdre, hein? Bon. Et, évidemment, il n'y a aucune preuve. Aucune preuve de ce que je dis. Ça ne peut pas se démontrer, ça ne peut pas se prouver. Et pourtant, il est possible d'avancer ça, il est possible de dire que c'est complètement délirant. Voilà. Suivant la façon dont on peut se situer par rapport à ce que l'on voit et ce que l'on entend. Or, dans notre rapport à l'autre, en permanence, c'est ça qui est en jeu. Ce que l'on voit et ce que l'on entend. Alors, à force de regarder l'aberrance hein, qui est là, effectivement, on ne voit plus que l'aberrance. Alors, il se trouve qu'elle est à peu près au milieu du tableau et qu'on pourrait retrouver la question du centre, hein, du centre du cercle, d'une certaine manière. Hein, ce qui ferait de cet être-là, on ne sait même pas si c'est un homme ou si c'est une femme. C'en est au sens de l'état civil, hein. C'est une espèce de d'énergumène phallique comme ça qui est dressé là, on ne sait pas trop ce qui arrive. Mais non, on va le charger. On va le charger de toutes sortes de figurations. Donc, quand le je parle, je parle avec quoi? Avec du corps. Du corps, pas celui de l'anatomie. Du corps. Et qu'est-ce que c'est que le corps? C'est la question. Je peux bien répondre, mais ça ne va pas faire. Le corps, c'est le corps du symbolique. Et le corps du symbolique, c'est la prise en compte du fait que le blabla, les mots, tout ce que j'avance, est soutenu par l'orifice là qui troue les mots, qui troue le sens des mots, qui fait que je vais pouvoir trouver quelque chose en parlant. En usant les mots, quelque chose peut être trouvé. Qu'est-ce qui peut être trouvé? Voilà. Alors qu'est-ce qui peut être trouvé? J'ai encore 5 minutes là. Eh bien, il peut être trouvé ceci, de même que là, que l'enjeu du tableau, c'est le trou qu'on voit, c'est l'aberrance. Et c'est l'aberrance d'où peut jaillir quelque chose. C'est-à-dire que quand je parle, quand je chante, au-delà du sens de ce que je raconte, il peut y avoir un effet de sens. Et l'effet de sens, c'est pas un effet de compréhension. C'est ce qui fait que tout d'un coup, ce qui est dehors, extérieur, devenant intérieur, l'intérieur devenant extérieur, au point de passage, on ne sait plus du tout où on en est. Il y a un moment de stupéfaction, voire de sidération. C'est ce qui se passe quand quelque chose de nouveau, en parlant, advient, et c'est ce qui est attendu, bien sûr. C'est cette pointe du réel de quoi ? De la jouissance. J-O-U-I-T-R-E-S-E-N-S, qui n'a rien à voir avec le sens. C'est ça qui est malin de la part de Lacan. C'est d'utiliser des mots et de les trafiquer comme ça, comme la bande de Mébus, de telle façon qu'on croit qu'on va s'y retrouver. Ben oui, il y a sens. Donc ça veut dire signification. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Il va dire que c'est une jaculation en parlant. C'est-à-dire que ça va dépendre comment ça sort par là, dans la bouche. Alors, évidemment, là, le docteur peut revenir et puis expliquer le diaphragme, tout ça. C'est vrai, le souffle, etc., la pression. C'est vrai, hein, ou le professeur, le docteur, le professeur en tout genre. C'est vrai qu'il y a ça. Mais. Néanmoins, ça peut sortir comme ça. Il n'en reste pas moins vrai que ce qui tourne autour, tout ce qui tourne autour, effectivement, de ce qu'on appelle la dimension de l'esthétique lyrique, nécessite, c'est-à-dire la voix, hein, nécessite effectivement qu'il y ait un certain dispositif qui soit mis en place, un piano, on pourrait dire un violon qui soit fabriqué pour qu'on puisse faire sortir quelque chose. Mais ce n'est pas parce que le piano ou le violon fonctionne que ça va sortir comme de telle façon qu'on soit entendu et attendu cette dimension du jouir. Du joui, du joui, c'est-à-dire du jouer oui à ce jeu. Jouir, prenez-le comme vous voulez. Il s'agit d'un jouer, d'un jeu très particulier auquel on dit oui. C'est ça la jouissance. Et habituellement, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'on a fabriqué par la pensée tout un dispositif pour penser, régulariser notre vie, régler notre rapport à l'autre. Et Dieu sait si ça décharge, hein. En permanence, pourquoi il fait ça, parce que là, qu'est-ce qu'il va penser de moi, etc., qui fait qu'on va plus être sensible du tout à cette dimension de la jouissance. Le séminaire a commencé un petit peu par qui s'appelait Dupe, hein. Eh bien, vous voyez que il y a un savoir qui n'est pas celui du non-dupe. Le non-dupe, c'est celui qui est là-dedans. Il sait de quoi on parle, le non-dupe. Il ne faut pas lui faire le coup. Hein. Il a fait des études, il est tout ça, il sait très bien que, voilà, il sait même qu'il y a derrière le truc, qu'il y a même quelque chose qui est derrière le rideau. Hein. Mais il pense exactement ce qu'il y a derrière le rideau comme ce qu'il y a devant. Il est mis à plat, quoi. Il est à plat, aplati. Hein. Il est, il fonctionne comme un pot, quoi, il est empoté. Et notre conception de Dieu, c'est ça. Dieu est un empoté. On l'a conçu comme ça. Eh bien, il y a quelque chose d'autre, qui est la dimension de l'existence, ex en dehors, qui est là. Pendant que je parle, l'existence, elle est là. Ça ne soit pas. Quand vous parlez chez un psychanalyste, c'est ça, il y a la dimension de l'existence qui est présente. En déguisance d'emblée, on pense à Dieu, évidemment. C'est là qu'on l'a mis. Bon, on en a fait un empoté en même temps, donc de toute façon, ça ne va pas bien loin. Hein. On y croit un peu quand on en a besoin, mais c'est tout. Hein. Ça ne va pas bien loin. Hein. Bon. Alors, cette dimension de l'existence, c'est ce côté-là, de cette jouissance-là, qu'est attendu que l'on puisse, ben oui, on va dire vraiment en jouir, quoi. Ça n'a rien à voir avec le plaisir, avec l'hédonisme, etc. C'est lié à la langue. C'est lié au fait qu'il y a dans la langue cette vie particulière qui est liée à ce qu'on appelle le signifiant. Et le signifiant n'a rien à voir avec le signifié, avec le sens. Rien. Rien du tout. Si j'ai un signifiant particulier, par exemple, je ne sais pas, pacha, c'est pas du tout le pacha. Ça n'a rien à voir avec ça. Rien. Rien du tout. Alors, d'emblée, je vais penser au pacha, bien sûr. Ça n'a rien à voir avec ça. J'y pense parce que dès que je pense comme ça. Et Dieu sait si je me complique la vie, hein. Mais je pense à partir de ce que je connais. Et tout ce qu'on connaît, c'est par rapport à la pensée. L'existence n'a rien à voir avec la connaissance. C'est intéressant, je vais m'arrêter là-dessus au niveau de la langue. Parce qu'en latin, vous trouvez « ec existo », d'où vient « existence ». Donc, Cicéron, tout ça, ils ont utilisé le mot. Et le mot n'a pratiquement plus été... Il a été utilisé dans ce qu'on appelle un système vernaculaire, qui est le latin de basse époque, hein, qui fonctionnait au 3e, 4e, 5e siècle. Et puis, quasiment, il réapparaît au 16e siècle, un petit peu avant. Mais c'est surtout au 17e qu'il apparaît. Qu'est-ce qui se passe au 17e? C'est les Lumières. C'est quand la pensée se met à fonctionner. Quand la pensée se met à fonctionner un peu plus, apparaît dans l'usage le mot existence. Et à ce moment-là, on va flanquer Dieu là-dedans. Existence de Dieu, donc Dieu il sait tout, mais Dieu, on le met dans le tableau. Il est empoté, complètement. Il ne pourra pas sortir du pot, le nôtre. Même si on pense qu'il n'y est pas dedans, c'est une dénégation, il est dedans. Hein, de toute façon. Bon, alors, le mot existere va surtout apparaître à partir du 16e siècle, 17e siècle, et progressivement vous allez avoir l'inexistence. Ben, tous ces mots-là, j'ai fait une copie du dictionnaire étymologique de référence, qui est le bloc Evarbo, qui s'appelle. Alors, 1425, ça apparaît. Rare avant le 17e, jusqu'au 19e, terme philosophique. Donc, empreinte du latin, existere, existentia, créé en la basse époque, je vous le disais tout à l'heure, et dérive, inexistant, 1784, inexistence, 1609, coexister, 1745, coexistence, 1560, non-existant, 18e, existentiel, ah, ça arrive à philo, hein. Existentiel, vers 1940, existentialisme, existentialiste. Vous voyez comment on bricole les mots? Ben voilà ce qu'on en a fait. Les mots existence, on l'a foutu dans le tableau, là. On l'a emprunté. Alors qu'il faut vraiment l'arracher, c'est-à-dire le faire tourner, ex, ce qui est complètement dehors de ce qui est là. De ce qui est posé là, de ce qui est cisteré là, de ce qui est mis là, en sachant qu'on ne pourra jamais arriver à l'empoter, à le mettre dans le pot. C'est-à-dire à en faire une kalos kagatos, une belle et bonne forme, pour reprendre le grec. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus pour ce soir.